Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, cette émission qui fait la part belle au gai Savoie et que j'ai le bonheur, il faut bien le dire, de présenter avec l'excellent Mathieu Noël.
Oh, c'est trop d'honneur, Stéphane. C'est moi qui ai la chance de travailler avec un animateur aussi célèbre et talentueux que vous, surtout qu'avec toutes les émissions que vous faites ici et là, vous pourriez vous emmêler parfois les pinceaux et me dire
« Bonjour, dans cette émission, eh bien, nous cuisinerons ensemble avec, eh bien, le cook expert, le robot cuiseur multifonction de Maginus.
Heureusement non, vous n'oubliez jamais qu'ici c'est l'émission où on parle d'histoire.
Oh là là, faut vraiment que j'ai le cul épais avec vous Mathieu. Alors évidemment ici on parle d'histoire. Chaque après-midi on réunit trois personnages très différents, issus d'époques d'ailleurs différentes, mais qui ont tout de même un point commun. Cet après-midi, celui peu glorieux, voyez-vous, d'avoir tué leur mère.
Allô maman, bobo.
Mais quand même pas en les passant en magie mix, Stéphane.
Alors lui, c'est en la poignardant qu'il a assassiné sa mère devant les yeux du valet de chambre de la famille. Un drame raconté dans le journal qui a attiré l'attention d'un écrivain qu'il connaissait bien, Marcel Proust. Je vous raconte Henri von Blarenberg. Puis, autre époque, autre drame, lui aussi a tué sa mère. Et pas qu'elle, vous verrez, simplement pour venger son père. Son âme, une serpe. Son nom, Pierre Rivière. Un jeune homme de 20 ans qui a fait couler beaucoup de sang. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un serial killer terrifiant qui, lui, s'est, pour ainsi dire, fait la main sur sa mère.
Oui, vous pouvez le dire comme vous voulez. De toute façon, tout est horrible dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Le problème, c'est qu'être schizophrène paranoïde, c'est gênant. Mais quand, en plus, vous mesurez 2,10 m pour 130 kg, ça devient gênant pour les autres. Vers 5h20, on mettra les enfants devant la Switch et je vous présenterai Edmund Kemper, un tueur dont les meurtres se comptent sur les doigts des deux mains, à savoir 10.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour messieurs, bonjour à tous. Mais dites donc, vos assassins, là, peut-être que leur mère leur avait administré un petit peu trop de fessées, non?
Est-ce que circonstances et des nuances.
Ah, c'est possible. Est-ce que ça a été votre cas ou est-ce que vos mamans vous ont un peu
battu? Oui, mais ça ne donne pas envie de les tuer.
Bon, c'est très bien. C'est gentil à vous. De toute façon, je ne vais d'ailleurs pas vous parler de fessées, mais de claques. Et non pas de claques liées à la ce qu'on appelle la pédoplégie, c'est-à-dire la pédagogie par les coups, ce que pouvaient administrer certaines mères, mais la claque au sens des applaudissements. Vous savez que dans les salles de théâtre, autrefois, il y avait des claques professionnelles, des claques rémunérées. Vous qui faites différents spectacles, si vous avez peur de ne pas avoir assez de monde,
vous payez
un
des
petit
gens,
bifton. La claque professionnelle, c'était très très en vogue à Paris.
D'où l'expression « faire la claque ». On paye des gens qui viennent applaudir.
Lui, pas besoin de payer des gens pour l'applaudir.
Non, on l'applaudit
spontanément.
David Kessel-Lopez qui remonte aux origines d'une invention qui fait notre joie au quotidien.
Tout à fait. Et là, vraiment, c'est la joie des essais cliniques. C'est-à-dire,
c'est vraiment gai, ça.
Une méthode scientifique qui est vraiment un très très bon chemin pour atteindre la vérité. Et pendant longtemps, on n'y avait pas pensé. C'est un monsieur qui a pensé en premier, donc je vous raconterai son nom.
Très bien. Et avec Olivier Poul, c'est bien, on remonte aux origines d'un plat, d'une recette, d'un mets, d'un aliment. Et là, ça parle de cuisine, quoi.
Ouais,
c'est gastronomie.
Bien sûr. Ben moi, je vais vous parler aujourd'hui du fromage de tête, qui ne contient pas de fromage.
Non,
d'ailleurs.
Mais ça, j'ai jamais compris.
Et qui est bien meilleur que l'espèce de barre chocolatée improbable que vous arborez fièrement dans la poche de votre chemise, mon cher Mathieu. Ben, feriez mieux de manger le fromage de tête.
Eh ben, si vous me l'aviez apporté, j'aurais pu le goûter. J'aurais pu repartir avec ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Enfin, si certains rêvent de tuer leur mère, je vous rappelle que c'est le thème de notre émission, c'est très mal de
rêver
de
faire,
tuer sa mère.
Non.
D'autres rêvent de tuer leurs collègues de travail, ce qui est moins mal, mais pas top non plus. C'est ce qui arrive chaque jour à Stéphane au moment de Burn to be Alive, ce quiz qui l'oppose à la redoutable Clémentine. Agaçante à toujours tout savoir. Rendez-vous aux alentours de 5h moins le quart.
Mais tout de suite,
vous gagnez de temps en temps.
Non, très souvent.
Ne jouons pas sur les mots. De temps en temps, vous gagnez. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h, 18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle lui a donné la vie, lui lui a donné la mort. Un fait divers, comme on dit, qui a fait couler du sang, mais de l'encre aussi, et notamment celle d'un écrivain très célèbre, Marcel Proust. Le tout aussi célèbre Stéphane Bern nous raconte un homme qui a tué sa mère. Oh oui, un certain Henri von Blarenberg.
Nous sommes le 25 janvier 1907 au 102 boulevard Haussmann à Paris. Ce matin-là, Marcel Proust, qui n'est pas encore le célèbre auteur de La Recherche du Temps Perdu, dont il entamera la rédaction du premier tome cette même année, s'apprête à répondre aux correspondances qu'il a en retard. Il compte notamment écrire à Henri von Blarenberg, dont le dernier courrier l'a particulièrement touché. En réalité, les deux hommes se connaissent peu. Ils ont dîné ensemble chez des amis communs quelques années auparavant, mais Proust, dont les parents sont décédés depuis peu, c'est l'affection que tous deux portaient au père d'Henri, décédé lui aussi quelques mois plus tôt. C'est à l'occasion de ce décès que Marcel Proust avait adressé une lettre de condoléances à Henri von Blarenberg. Henri n'y avait répondu que 4 mois plus tard. Au détour de cette missive où il se disait touché, il apprenait aussi à Marcel Proust que la mort de son père, président de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, l'avait terrassé au point qu'il est dû aller se reposer dans un établissement de soins en Bretagne. Un échange épistolaire entre les deux hommes s'en était alors suivi. Ce matin-là, avant de s'atteler à l'écriture d'une nouvelle lettre, Marcel Proust déplie le Figaro du jour. À la page 3 du journal, l'écrivain est interpellé par le titre d'un article qui tient sur 2 colonnes. Un drame de la folie. Stupeur de Proust qui, dès la première ligne, découvre que ce drame prend justement lieu et place dans la demeure de la famille von Blarenberg et qui comprend surtout, dès le premier paragraphe de l'article, le drame qui s'est tramé. Résumé en cette phrase laconique, un fils a tué sa mère et s'est ensuite suicidé. Proust apprend donc dans le journal que son ami Henri n'est plus et qu'avant de mettre fin à ses jours, cet homme de 40 ans a éliminé sa propre mère, âgée elle de 80 printemps. Les faits se sont produits la veille, comme l'explique l'article qui dévoile les circonstances du drame et rappelle que la neurasthénie du fils n'était pas nouvelle, remontant même à plus de 10 ans. D'abord lieutenant du génie à Versailles, Henri von Blarenberg avait dû quitter l'armée suite à ce qu'on décrit comme un surmenage. Hospitalisé de longs mois durant dans une maison de santé, les parents du pauvre Henri le crurent d'abord rétabli. Mais de nouvelles crises de démence survinrent, de plus en plus violentes. On rapporte même qu'un jour, Henri, pris d'un excès de folie, en était venu à détruire tout son mobilier, au simple prétexte que celui-ci ne lui plaisait plus. Voyant l'état de leur fils aggravé, les von Blarenberg s'étaient résolus à faire aménager le 2e étage de leur hôtel particulier pour l'y loger. C'est ainsi que, d'apparence stabilisée au niveau psychiatrique, Henri se retrouva à résider sous le même toit que ses parents. Puis de sa seule mère après le décès de son père. Ce drame l'ayant particulièrement affecté, son état de santé se dégrada plus encore et obligea l'ancien militaire à avoir de nouveau recours à des soins médicaux. Proust connaissait-il l'ampleur de l'état de santé mentale de son ami Henri? Sans doute n'avait-il pas eu l'occasion de le deviner, mais l'écrivain, poursuivant toujours stupéfait la lecture de l'article du Figaro, va découvrir le déroulé des faits par le menu. Tous les détails ont été rapportés aux juges, aux procureurs et à la police venus enquêter sur place par Frédéric Maréchal, le valet de chambre de l'hôtel de la famille von Blarenberg qui a assisté au drame. C'est ainsi que le journaliste Jean de Paris peut les rapporter à ses lecteurs. Selon le témoignage du valet et d'autres domestiques de la maison, la journée avait commencé sous les meilleurs augures chez les von Blarenberg. Henri, disent-ils, s'était même réveillé d'excellente humeur. L'article rapporte qu'il a commencé par aller saluer sa mère et lui annonce qu'il compte se rendre en voiture sur une plage de la Manche. Puis Henri travaille une partie de la matinée avec son secrétaire avant de partager le déjeuner avec son cousin. C'est après son départ, aux alentours de 3h30 de l'après-midi, que probablement au repris d'une crise, les choses ont mal tourné. Alerté par une sonnette d'alarme, le valet accourt sur le palier du premier étage de la maison. Il découvre alors Henri menaçant sa mère avec un pistolet. Après avoir menacé le valet avec l'arme, Henri a bien tenté de tirer sur sa mère, mais le pistolet étant sans doute enrayé, le coup n'est pas parti. Appelant les autres domestiques au secours, Frédéric Maréchal raconte qu'il a vu Madame von Blarenberg gisant au sol, percée d'un coup de poignard, et que ce pauvre fou d'Henri brandissait tout à la fois et le poignard et le revolver, chacun dans une main. Dément, Henri gesticulait et criait tout en remontant l'escalier vers ses appartements à l'étage du dessus. Le valet, voulant évidemment porter secours à Madame von Blarenberg, se rend très vite compte que, par le coup de poignard que lui a asséné son propre fils, elle n'est déjà plus de ce monde. Henri, lui, toujours armé, s'est alors barricadé dans ses appartements. Mais de nouveau pris d'une crise de démence, qui pouvait bien deviner ce qu'il allait y faire? C'est alors que la détonation d'un coup de feu se fait entendre. Le personnel présent sur place parvient à enfoncer la porte. C'est là qu'on imagine Marcel Proust toujours stupéfait des lignes qu'il découvre, des lignes lui apprenant qu'après s'être entamé la poitrine au poignard, Henri von Blarenberg s'est tiré une balle de pistolet dans la tempe. On le retrouve agonisant, poussant de longs râles, gisant sur le tapis près de la fenêtre. Ce fils parricide, cet ami suicidé que Marcel Proust connaissait, bouleverse l'écrivain. Et faute de pouvoir encore écrire à Henri von Blarenberg, comme il avait prévu de le faire quelques minutes plus tôt, ce drame va inspirer à Proust la rédaction d'un article. Suite à la découverte de ce matricide dans son journal de référence, Proust s'empresse d'aller lire les autres quotidiens pour voir comment l'histoire est racontée. Tous les journaux de l'époque se sont évidemment empressés de traiter la triste fin de la famille von Blarenberg. Et Marcel découvre, consterné, que tous ont tenté, par divers éléments erronés, de donner leur interprétation des faits. Marcel Proust, qui n'est pas encore reconnu pour sa plume, qui sait si bien dépeindre toutes les nuances du tréfonds de l'âme humaine, va alors s'évertuer à démentir les spéculations couchées sur le papier. En s'emparant du cas d'Henri von Blarenberg, il est en quête de lui rendre justice. Il veut redonner à Henri, que les journaux écrits par ses contemporains décrivent comme un monstre, son humanité. Il dément tous ceux qui placent au cœur du drame l'immense fortune de la famille von Blarenberg. Il conteste aussi la dangerosité d'Henri, contre laquelle ses médecins auraient mis en garde la mère. Il contredit enfin l'idée selon laquelle Henri était un alcoolique patenté. Proust préfère s'en remettre à la sensibilité qu'il a constatée par lui-même dans sa correspondance avec Henri von Blarenberg. Au cours de ce long article qu'il prépare sans se soucier des calibrages imposés à la mémoire de son ami Henri, Proust se plaît à le rapprocher d'une tragédie contemporaine. Il le relie aux grands mythes que sont Œdipe, le roi Lear ou Don Quichotte. Sous la plume de Marcel Proust, celui qu'on dépeignait comme l'auteur de cet abominable fait divers devient, à sa façon, un héros tragique. Et l'homme, certes malade, qu'était Henri von Blarenberg, prend une nouvelle dimension. Son article, intitulé « Sentiments filiaux d'un parricide », paraît presque une semaine après le premier, dans le Figaro, daté du 1er février 1907. Marcel Proust, légitime de par sa proximité avec le protagoniste, ne manque pas de surprendre ses contemporains, au point de les déranger. Au regard de sa littérature, désormais admirée de tous, le plus grand auteur français du XXe siècle démontre, au détour d'un simple article, son génie, la richesse de son propos et la complexité de son regard aussi, sur une histoire qui a fait non seulement couler du sang, mais aussi son encre.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Henri von Blarenberg, nous avons le plaisir d'accueillir l'éditeur qui a réédité dans un court ouvrage le texte de Marcel Proust. Bonjour Gérard Bérébi.
Bonjour.
Bonjour Gérard Bérébi, vous êtes écrivain, fondateur de la maison d'édition Alia, où vous avez publié « Sentiments filiaux d'un parricide » de Marcel Proust, auquel vous ajoutez une postface. Première chose qui frappe, c'est le titre de l'article de Proust, « Sentiments filiaux d'un parricide ». Pourquoi n'emploie-t-il pas le mot de « matricide » plutôt ?
Matricide est un mot bien français,
oui.
Mais il était inusité, tombé en désuétude, il a été remplacé par le mot parricide. On peut faire confiance à Marcel Proust pour avoir, si je peux me permettre, une totale maîtrise de la langue française et de connaître bien évidemment ce mot. On dit plutôt, même en parlant d'une mère, parricide. Par exemple, on parle du parricide d'Oreste alors qu'il avait tué sa mère.
Bien sûr. Mais les sentiments filiaux qu'il évoque également dans le titre font référence, j'imagine, à sa situation d'orphelin. Ou alors, est-ce l'empathie de Proust à l'égard d'Henri von Blarenberg puisqu'il tente de le réhabiliter aux yeux des Français?
Je suis partagé. Il est vrai qu'ils étaient tous deux orphelins, c'est un fait objectif. Mais je ne crois pas que ce soit la raison qui ait poussé Proust à écrire ses sentiments filiaux. Qu'il y ait de l'empathie, c'est certain. Simplement, il faut comprendre une chose selon moi, c'est que l'approche de Proust n'est pas commune. C'est-à-dire que, quelle que soit la chose qui se présente, il y a comme une élévation de l'esprit, il y a comme une approche qui n'est pas une approche vulgaire, commune, et il donne de la noblesse d'âme à tout ce qu'il voit. Et c'est ce qui fait aussi sa différence.
Mais alors justement, pourquoi est-ce qu'il était aussi important pour Proust de donner une nouvelle interprétation des faits? Les deux hommes ne paraissaient pourtant pas si proches, même s'ils avaient le point commun d'avoir perdu leurs parents, on l'a dit. Pourquoi cette urgence du côté de Proust à faire entendre cette interprétation différente?
Selon moi, je crois que Proust, au-delà de la connaissance sommaire de Henri, du rapprochement, il a croisé un ou deux dîners, et encore, il n'était pas assis à côté de lui, c'est qu'il a été saisi par le fait divers en tant que tel, et ça l'a frappé parce que ça l'a immédiatement renvoyé aux tragédies antiques.
Mais comment vous expliquez déjà le traitement massif de ce fait divers par la presse de l'époque ? C'est dû, j'imagine, parce que quand on relit les articles de l'époque, c'était le statut social et la fortune de la famille von Blarenberg qui peut l'expliquer, ou au fait que c'est vrai que c'est un parricide, quoi. Il a tué sa mère.
Complètement. Moi, j'ai l'impression que les choses n'ont pas beaucoup changé. Elles ont évolué, elles se sont adaptées à l'époque. Avec la puissance de la chambre d'écho, aujourd'hui, par exemple, repris dans les réseaux sociaux, ou si vous préférez, les réseaux des cas sociaux, et les choses prennent une amplitude énorme, où chacun a un avis à donner. Que voulez-vous ? Voilà une affaire où nous montre les turpitudes de la grande bourgeoisie. Des gens bien nés, dans l'aisance, avec hôtel particulier, rue de la Bienfaisance. On a besoin de se repaître de cela, c'est-à-dire d'exciter les bas et vils instincts. À partir de là, que voulez-vous qu'il se passe ? On donne de la nourriture quand les gens sont éduqués et donc ont besoin de cette nourriture. C'est-à-dire, quand Proust voit de la noblesse d'âme, de la grandeur dans un geste criminel... Le commun des mortels a besoin d'être flatté et qu'on flatte ses bas instincts, tout simplement.
Vous écrivez dans la postface de Sentiments filiaux d'un parricide, l'article de Proust, que pour lui, l'acte d'Henri von Blarenberg est une répétition contemporaine d'une tragédie intemporelle et universelle, en le rapprochant, vous l'avez dit, des tragédies d'Oedipe ou encore du roi Lear. C'est une tentative d'atténuer quand même le crime qu'il a commis, de faire ce parallèle.
C'est tout le problème. C'est-à-dire que l'approche de Proust... qui, comme vous le précisez justement, se distingue radicalement et se situe à l'opposé de tout ce qui a été écrit sur le sujet par la presse à l'époque, montre bien qu'il y a un problème de conscience et de responsabilité. Je vais dire quelque chose sur Henri von Blarenberg, mais l'esprit du temps, la morale de l'époque, ne peut pas l'entendre. Que fait-on ? Heureusement, Proust a écrit ce texte. Il ne pouvait pas faire autrement. Comme il a écrit son œuvre par la suite, et son œuvre était très particulière, parce que c'est une œuvre, si vous voulez, qui pourrait donner l'impression de parler de tout et de rien, mais conceptuellement, ça a été la première fois dans l'histoire de la littérature où, sans le nommer, le personnage principal était le temps, et plus précisément, l'écoulement du temps qu'il transpose très précisément dans son écriture. Un vrai génie.
Proust écrit dans cet article « Tant que les fous frappent, ils ne savent pas. Puis, la crise passée, quelle douleur !» L'article initial du Figaro du 25 janvier 1907 se nomme d'ailleurs « Un drame de la folie ». Mais savait-on, au fond, de quelle pathologie mentale Henri von Blarenberg souffrait ?
Il était, comme on disait, neurasthénique. Ensuite, dans le langage, ça a évolué. On est devenu maniaco-dépressif.
Ah oui.
Puis on est devenu bipolaire, ce sont à peu près les mêmes pathologies, et avec une tendance paranoïaque très prononcée. Il avait des sursauts, des moments d'angoisse, de panique, où il maugréait entre ses dents, il faut les tuer, il faut les tuer.
Mais qui ?
Et il faut les tuer, on ne sait pas qui.
On ne sait pas.
Il faut les tuer, et là, si vous voulez, ça donne un sentiment d'inquiétude. Et quand il dit il faut les tuer, c'était à ce moment-là qu'il a jeté le mobilier par la fenêtre, et qu'il a été se fracasser au sol. Il disait à sa mère, le jour où elle lui donnait de l'argent, parce qu'elle avait beau être octogénaire, c'est elle qui gérait la fortune familiale, et tous les jeudis, elle lui remettait de l'argent. Et il était mécontent parce qu'il trouvait qu'il n'en avait jamais assez. Et déjà, c'était beaucoup ce qu'elle lui donnait. Eh bien, il faut les tuer. Ça donne une idée, si vous voulez, du mal qu'il habitait et qu'il a poussé à ce geste fatal. Dans ce que l'on sait de la vie d'Henri von Blarenberg, c'est évidemment l'origine sociale, les belles études qu'il a faites. Comme vous le précisiez, il était ingénieur du génie civil dans l'armée. Porté sur la boisson, c'est certain. Il ne manque qu'un élément, c'est les turpitudes sexuelles.
Ah oui. Et là, le tableau aurait été complet. Mmh. Et les thérapeutiques sexuelles auxquelles on pense dans ce profil-là, c'était, comme on disait à l'époque, la pédérastie. Mmh. Et à partir de là, on peut broder avec tout cela et montrer au peuple les turpitudes que nous, dans les basses classes, nous n'avons pas. Voilà comment on vit dans la grande bourgeoisie française.
Vous concluez votre postface avec la conclusion de l'article de Proust qui avait été retiré à l'époque à la demande de Gaston Calmette, le directeur du Figaro. Quelle interprétation pouvez-vous donner de cet hommage à Œdipe et au reste auquel Proust rend hommage?
D'abord, ça serait dommage. Parce que si Proust n'avait pas fait ses premières armes avec ce genre de chronique...
Peut-être qu'on n'aurait pas eu la recherche. Mais pourquoi Gaston Calmette avait censuré l'article?
Le dernier paragraphe.
Il avait coupé, et d'ailleurs Proust, dans une lettre envoyée à Robert Dreyfus, jugeait justement cette conclusion assez bien vraiment. Que dit-il dans cette conclusion? Si vous permettez, ça fait quelques lignes, je peux la lire.
Allez-y.
Rappelons-nous que chez les anciens, il n'était pas d'autel plus sacré entouré d'une vénération, d'une superstition plus profonde, gage de plus de grandeur et de gloire pour la terre, qui les possédait et les avait chèrement disputés, que le tombeau d'Œdipe à Colone et que le tombeau d'Oreste à Sparte. Cet Oreste que les Furies avaient poursuivi jusqu'au pied d'Apollon même et d'Athénée en disant « Nous chassons loin des autels le fils parricide. » Ce qui fait que Proust, qui a élevé ce criminel, ce fait divers sordide, au rang de tragédie antique, c'est qu'il avait, à mes yeux, parfaitement compris le besoin humain de mythes, et mythes qui, dans notre époque, ont quelque peu disparu.
Et quel est l'accueil, justement, on finira là-dessus, de ce texte de Proust à l'époque? Il a conscience, en l'écrivant, qu'il ne pense pas comme le commun des mortels là-dessus, comme la presse en tout cas. Comment il a reçu cet article?
On n'a pas trop d'écho, on n'a pas trace de trop d'écho, si vous voulez.
Mais il n'y a pas eu d'autres tribunes pour s'insurger contre ce traitement-là?
Non, il n'y a pas eu de réponse, de contradiction ou de choses comme ça.
Il n'y a pas de courrier des lecteurs.
Et puis, on est passé à autre chose.
Je pense que le courrier des lecteurs aurait dû être abondant. En tout cas, aujourd'hui, il n'aurait pas pu l'écrire.
Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même époque parce qu'on est dans une société d'émotions qui se veut compassionnelle. Rien ne mobilise plus l'émotion que le crime et les souffrances des victimes, décuplées par la médiatisation et la puissance des images à la télévision et sur les réseaux sociaux.
Et là, si vous voulez, on a
tous les ingrédients pour faire monter la sauce.
Oui. Merci beaucoup Gérard Bérébi. Je rappelle que l'article de Marcel Proust, Sentiments filiaux d'un parricide, suivi de votre postface, est disponible aux éditions Alia. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ici, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire, sans se la raconter, elle nous raconte des histoires qui font souvent grand bruit. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, du bruit, eux aussi on faisait, puisque vous nous racontez des claques professionnelles, ces hommes et ces femmes chargés d'applaudir ou de huer pour les nouvelles pièces de théâtre au 19e siècle.
Là, visiblement, ils aiment beaucoup. Merci, merci, non, c'est trop, non, vraiment, vous me faites rougir. Dites-moi, messieurs, avez-vous vu ou lu les Illusions perdues?
Oui, il y a longtemps.
Bien sûr, il y a longtemps.
Mais le film aussi, plus récent.
Ça, je n'ai pas vu le
film. Moi, je lis plus les livres que je ne...
Vraiment, le film est sublime. Sublime. C'est du très, très, très beau cinéma. En tout cas, bref, dans Les Illusions perdues, Balzac décrit comment le succès d'une pièce de théâtre est entièrement tributaire de la qualité de la claque, pour la première, surtout la première, si vous voulez. Bon, la claque, ce sont donc les applaudissements. Ce sont eux qui décident si la pièce sera un four, on aurait dit un four, autrefois un bide, aujourd'hui il y a un bide ou un four, bon, un succès. Les directeurs de théâtre sont obligés de payer. Et les premières théâtrales peuvent donner lieu à toutes sortes de surenchères et surenchères si le directeur de la salle de théâtre concurrente paye une claque pour venir huer votre pièce. Donc c'est vrai, c'est la surenchère. La claque est à la gloire dramatique. « Ce que les pleureuses étaient à la douleur », écrit Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. « Celui qui paie le plus cher peut toujours, et jusqu'à la dernière minute, modifier du tout au tout l'attitude de la claque, qui sur commande lancera sur scène des brassées de fleurs, ou plutôt des tomates. L'essayiste Martin Monestier a consacré tout un chapitre à l'histoire de la claque dans son encyclopédie de la malfaisance, qui est ma bible, vous vous en
doutez. Oui, j'imagine.
Il raconte que le principe de la claque remonte au théâtre antique, mais que finalement le plein usage s'attache surtout au 19e siècle, avec les regains de rivalité entre les acteurs, entre les auteurs. Alors, quand vous allez au théâtre au 19e, souvent la salle est partagée en deux camps rivaux, constitués de claqueurs salariés. Être chef de claque, c'est une sinécure juteuse. C'est une charge comme sous l'Ancien Régime.
On est payé combien ?
C'est une charge qui s'achète. Alors je vous explique, l'historien Henri Lyonnais nous apprend qu'un certain Auguste, chef de claque à l'opéra, paye sa charge l'équivalent de 60 000 de nos euros. C'est considérable, c'est une charge comme une plaque de chauffeur de taxi, si vous voulez. Bon, en échange, il reçoit chaque jour un certain nombre de billets qu'il est libre de vendre du moment qu'il les vend, au prix qu'il veut, du moment qu'il les vend moins cher que ceux vendus au guichet de l'opéra. Donc, ceux qui ont ces billets-là à prix réduit s'engagent à applaudir ou à huer sur un signe du chef. Le chef de claque, il assiste aux répétitions, il prend des notes, il connaît les moments de la scène où il est pertinent, judicieux de faire intervenir sa claque, selon l'artiste qu'il est censé...
C'est un chauffeur de salle.
C'est un peu un chauffeur de salle.
Mais comment il décide s'il prend position pour ou contre ?
Ah bah ça, c'est une question d'argent. Et du coup, les claqueurs ne savent jamais à l'avance s'ils vont être payés pour applaudir ou pour huer. Le chef de claque propose diverses prestations. Applaudissements appuyés ou ordinaires, applaudissements prolongés, applaudissements avec bravo et ovation debout, très cher l'ovation debout, sans doute. Favart, qui était lui-même un auteur dramatique, dans ses mémoires évoque l'importance d'un de ses chefs de claque qui exerçait de fait un véritable racket et qui avait à sa tête plus de 150 conspirateurs claqueurs, si vous voulez. Donc celui qui n'avait pas les moyens de lui payer un tribut, il pouvait compter sur une chute inévitable. Aucun auteur, même le plus grand, ne peut s'en remettre à la seule valeur de son œuvre. Évidemment, un des événements majeurs du 19e en la matière, c'est l'histoire d'Hernani. Le 25 mars 1830, Hernani, tragédie de Victor Hugo, symbole de l'affrontement entre les deux écoles théâtrales classiques et romantiques. Alors Hugo a constitué sa claque, parce que le théâtre lui donne à chaque fois 100 places. Bon, et il les file à ses amis. Le soir de la première représentation, les romantiques arrivent les premiers, ils s'entassent de très bonne heure au parterre, là ils mangent, ils boivent. Alors, il y a des odeurs de fromage, de saucisson à l'ail, de cigares dans la salle. Dans l'attente du lever de rideau, il y en a qui vont soulager dans les loges, parce que les loges ne sont pas encore ouvertes, et c'est généralement les classiques qui s'y asseyent. Ce soir-là, ceux qui soutiennent les classiques sont environ 1500. 1500 à occuper les loges et les balcons. Ils sont venus munis de projectiles pour canarder les hordes de barbus romantiques qui se trouvent par terre. Et si vous voulez, c'est pas étonnant que Balzac ait raconté ça, parce qu'il était à la première d'Hernani, il a vécu ça, et pendant des semaines après la bataille d'Hernani, il racontait partout dans Paris qu'il avait reçu un demi-chou-fleur dans la figure sur fond de cris, d'insultes et de vociférations. Et alors évidemment, le soir de la première d'Hernani, la salle est déjà fiévreuse, surexcitée, les deux camps sont prêts à en découdre. Il y aura quand même 38 représentations, toutes ponctuées d'incidents plus ou moins graves et spectaculaires. La police va intervenir, la police va arrêter du monde. Hugo va compter toutes les interruptions de la pièce, 148. Mais ça reste quand même assez gentil, parce que par ailleurs, Hugo a reçu des menaces de mort. Et il y a même quelqu'un qui, pendant la nuit, est venu tirer une balle de revolver contre son domicile. Et ça a fait voler une vitre en éclats. Ça restait quand même assez loin. En province, on s'est même battu en duel à plusieurs reprises pour ou contre Hernani. Alors ces claques, c'est quand même, ça nous paraît très curieux, mais elles ont existé jusqu'à la fin du 19e. Et celle de la Comédie française a été supprimée vers 1870 et celle de l'opéra en 1878. C'était hier, donc ça existait encore.
Bravo, 1870. Clémentine.
Bravo. Là, je crois qu'on... La critique est unanime, Clémentine.
Je vous remercie, mais non, c'est trop. Vous faites souffrir ma modestie.
Vous avez bien reçu notre rib. Et quelque chose qui a été étonnant, c'était ça gâchait un peu le plaisir du spectacle. Enfin, parce que si on allait voir une pièce, on ne pouvait pas. Profiter de la pièce comme ça et ressentir.
Oui et non, parce que c'est quand même manifestement, d'après ce que j'ai lu, c'est quand même en particulier un phénomène de première.
Oui.
C'est là, il faut absolument que le démarrage soit bon. Bon, mais c'est à ce titre, les illusions perdues, c'est absolument passionnant. La façon dont on manipule la presse, dont on fait des bonnes ou mauvaises critiques en se faisant graisser la patte, enfin tout ça n'est pas forcément joli, mais c'est une chose intéressante à nos yeux d'habitants de 2022.
Eh bien, merci, Clémentine. Surtout, vous restez avec nous, puisque dans un instant, l'un va être applaudi, l'autre hué. C'est le quiz.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est tellement habitué à être sollicité par des marques qu'il n'arrive pas à comprendre que notre quiz est un moment de pur plaisir intellectuel. C'est la raison pour laquelle cette séquence n'a pas de sponsor. Jouons, Stéphane, à Born to be Alive.
Avec Magimix.
Mais non, Stéphane, sans Magimix. Comme ça, juste pour le plaisir de jouer.
C'est vous qui avez rajouté le son. C'est pas moi, hein. Parce que les gens vous croient que c'est moi qui... Mais c'est vous, vous êtes vraiment... Vous êtes cabotin, mais c'est pas possible.
Cabotin, voilà. Une nouvelle insulte pour moi. Concentrez-vous, Stéphane. Concentrez-vous. C'est à Isaac Mérite Singer que l'on doit l'invention de la machine à coudre dont l'aiguille a un mouvement vertical pour coudre. En 1851, il fonde aux États-Unis l'entreprise Singer. Mais Isaac n'est pas obsessionnel que de la petite aiguille. Il a été arrêté pour quelle raison, Stéphane ? Pour bigamie ? Pour avoir eu des relations sexuelles avec une personne de sa famille, ce qui est mal, faut le rappeler, ou pour ne pas avoir payé ce qu'il devait dans une maison de tolérance.
Alors,
on est en 1851.
Redites-moi les trois versions.
Alors, il a été arrêté pour bigamie, pour avoir eu des relations sexuelles avec une personne de sa famille, ou pour ne pas avoir payé ce qu'il devait dans une maison de tolérance.
Si c'est sa femme, si vous voulez, c'est pas une raison de l'arrêter. C'est des relations
personne
sexuelles.
De sa oh, vous êtes taquin, Stéphane. Vous avez très bien compris de quoi je parlais.
Écoutez, moi j'ai tendance à penser, parce que il n'a jamais été, dans l'idée que j'en ai, couvert d'infamie.
Donc vous éliminez quoi ?
Donc j'élimine le fait qu'il ait commis un inceste, donc la 2. J'élimine le fait qu'il... Est-ce qu'il a été bigame ?
Moi, je vois plutôt ça, Stéphane. Plutôt que le gars qui ne paie pas dans une maison close, surtout ouais. Saint-Gère, il devait avoir de quoi payer sa facture, je ne sais pas, non.
Je sais que sa fille a fait un beau mariage. Elle a épousé Armand de Polignac. Non, elle a fait un très beau mariage. Il était peut-être bigame, effectivement.
Moi, je pensais plutôt ça, je verrais ça.
C'est votre réponse ?
Oui, il était bigame.
Vous avez...
Singer, papa de la machine à coudre, était plus que bigame, il était parfois quadrigame. L'inventeur de la célèbre machine à coudre a eu jusqu'à 4 femmes en même temps. Il a été arrêté.
C'est cousu de fil blanc, ça.
Bravo, vous méritez presque un demi-point.
Oui,
Peut-être.
Oh, faut pas charrier non plus.
Qui
hein.
sait, on en aura peut-être besoin. Il a été arrêté pour polygamie quand sa maîtresse l'a surpris avec une autre maîtresse. Isaac a eu 24 enfants reconnus.
Hein. Oui,
sacrée production. Question numéro 2.
Ça dit la vie de l'héritage. Hein.
Mais c'est ça, assez, mais on n'y pense pas. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. 19 janvier 1919, l'aviateur Jules Védrine a réussi à se poser sur le toit des Galeries Lafayette. Pour cet exploit, il a empoché une prime, mais également une amende. Quel est le plus gros montant ? L'amende ou la prime ? Ou les deux sont-elles égales ? On parle en ancien franc.
Je trouve qu'il aurait été élégant de la part des Galeries Lafayette de régler l'amende.
Oui, mais ce n'est pas la question.
Puisque vous dites, là c'est la troisième possibilité, non ?
Non, ou les deux sont-elles égales ? J'ai demandé ce
oui,
que
les deux sont-elles égales. Donc
l'amende était aussi chère que la prime qu'il a reçue.
Oui, je dirais ça, oui. Donc 3. L'amende était aussi chère que la prime.
Vous avez perdu.
Pas du tout. Pas du tout. Alors, le prix était heureusement bien plus élevé. 25 000 francs à l'époque, c'était énorme. Ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui si on convertit en euros. 25 000 francs. L'amende était que de 16 francs à cause de l'interdiction de la préfecture de Paris de stationner comme ça sur le toit des Galeries Lafayette. Stéphane, question 3. Je ne sais pas si vous aimez chevaucher et plus particulièrement si vous avez déjà senti au creux de vos reins les trépidations d'une Harley Davidson. Si cette marque de moto existe, eh bien, c'est grâce à Monsieur Harley et Monsieur Davidson. Vrai ou faux ?
Non, je crois pas. Ça serait trop simple.
Ça serait trop évident.
Oui, trop évident.
Ça serait bête comme chou.
Vous avez
Perdu.
L'histoire est parfois simple, Stéphane. Ouais. William Harvey et Arthur Davidson, la société est née au fond d'un jardin dans un tout petit abri le 28 août 1903 Milwaukee.
J'ai cru qu'il y avait un piège et c'était...
Mais d'ailleurs, j'étais en train de penser, ils sont mal Harley Davidson, parce que je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement dans l'actualité, il paraît que maintenant il y a des radars qui vous arrêtent si vous faites trop de bruit. Et ben les Harley, si vous avez déjà croisé une Harley, vous savez que ça fait à mon avis beaucoup trop
de
bruit.
On peut brider le bruit de la...
Alors oui, mais alors si vous voulez, quand vous êtes passionné d'Harley Davidson, je pense que brider le moteur de votre Harley, à mon avis, ça n'a plus de sens.
C'est pas vous qui nous avez dit, Mathieu, que sur les Porsche électriques, il y a un faux bruit de poète-poète.
Je vois pas pourquoi je vous aurais raconté ça, mais c'est effectivement vrai. Bonne réponse de Clémentine Portier, quelle est la mauvaise réponse de Stéphane.
Question qui ne m'avait pas été posée.
Question numéro 4. Oui, question numéro 4 pour vous, Clémentine. Encore une question.
Et on est à égalité, là, Stéphane. Oui. Parce que je me suis trompée sur l'amende.
Je vous présente Arthur John Priest. Il est mort en 1937 et on a donné à cet Anglais le surnom de peintre maudit. Non pas qu'il faisait des toiles qu'il n'arrivait pas à vendre, mais parce qu'il a travaillé sur les peintures des 5 grands paquebots de 1907 à 1917. Les 5 navires ont échoué, dont le Titanic. Est-ce vrai ou faux? Arthur John Priest était-il le peintre maudit?
Sur 5, il y aurait eu 5 bâtiments qu'il aurait peint. Qu'est-ce qui a échoué comme grand bâtiment? Il y a le Lusitania, il y a le Titanic, mais quoi d'autre? Quels sont les 3 autres?
Je ne suis pas habilité à vous donner des informations.
Des bâtiments.
Non, je vous demande si c'est vrai ou faux.
Écoutez, je trouve ça pas mal comme histoire. C'est une belle histoire. Hein. Si elle est fausse, elle mériterait d'être vraie. J'aurais pensé vrai, oui. Peut-être était-il le peintre maudit.
Le peintre maudit.
Encore perdu.
C'est faux. C'était le chauffeur insubmersible, Arthur John Priest. Pourquoi? Il a travaillé sur ces bateaux, sur l'Asturias, l'Olympique, le Titanic, l'Alcantara, le Britannique. Tous ces bateaux ont coulé, mais lui a survécu. À chaque fois. Il est mort d'une pneumonie à 49 ans.
Oui, donc c'était très crédible, votre histoire. Oui.
Belle victoire de Stéphane Bern.
Oui, belle victoire, avec juste un point.
Et non, puisqu'il y a eu cette réponse sur le son électrique des Porsche, question qui est vraiment au cœur de l'histoire. C'est intéressant.
Il y a un moment, ça va se voir.
Oui, peut-être.
Que tu truandes. Non, mais mon petit Mathieu.
Peut-être. Un jour, ça se verra.
Ah oui, mais,
Cela dit, 1-0, c'est pas reluisant. Parlez pas non plus de victoire triomphante.
Deux mauvaises réponses.
Quelle chose, c'est pour ça que j'ai 0.
Je truande. Un jour, ça se verra. Mais à ce moment-là, on sera loin avec la caisse. Question numéro 5 pour vous, Stéphane. Pour tout le monde, pourquoi pas?
Cette déchéance morale et physique, ça m'inquiète.
C'est la question de rapidité, ça y est, je m'en souviens.
Oui, ça y est.
Mai 1957, le constructeur Renault se lance un gros défi, conquérir le marché américain avec la légendaire Dauphine. Quel argument publicitaire va être utilisé? 3 propositions. La French car, c'est comme le French kiss. Il y a un klaxon pour la ville et un pour la campagne. Ou elle est tellement petite que vous pouvez en prendre 2.
3.
Réponse 3, c'est une mauvaise réponse.
2.
C'est une victoire de Stéphane Bern.
Quelle était la réponse 2
de
déjà,
l'automobile,
Stéphane?
Mais il va nous le dire. Quelle était la réponse de Stéphane?
Un klaxon pour la ville, un klaxon
pour la campagne.
Effectivement,
c'était l'argument de vente.
Je me souviens, ma maman avait une Dauphine.
Alors écoutez, les ventes avaient démarré très fort, mais rapidement tout s'effondre. Les Américains sont en effet habitués alors à appuyer à fond sur l'accélérateur et le moteur de la Dauphine se noie trop facilement.
Ah oui, c'est vrai.
Ce sera une débâcle commerciale.
Elle était jolie, cette petite voiture.
Elle était mignonne,
belle, mais mal motorisée, ça arrive. Ouais. Bravo Stéphane,
belle victoire. Là c'est la Bérésina.
Tout à fait.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous aimez l'histoire, vous aimez la bonne humeur, mais vous aimez aussi, comme Stéphane, le sang, les sadiques et les tueurs en série sadiques. Bienvenue aujourd'hui dans Diaboliquement vôtre.
Oh oui, Mathieu, on réunit 3 personnages peu recommandables. Et pour cause, ils ont tué leur mère.
Ne faites surtout pas ça chez vous.
Ni chez elle.
Bien sûr.
Après Henri von Blarenberg, un tueur fou que Marcel Proust, qu'il a côtoyé, a voulu ériger en héros tragique, je vous raconte la terrifiante histoire de Pierre Rivière. Vous vous souvenez de Astérix et la Serpe d'Or, Mathieu?
Oh oui!
Eh bien là, l'histoire pourrait s'appeler la serpe de sang.
C'est pas mal, mais ça m'a l'air petit joueur par rapport à mon personnage du jour, Edmund Kemper. Lui aussi, il a tué sa mère, hein, c'est le minimum syndical pour avoir droit au chapitre dans notre émission du jour. Mais il a aussi tué ses grands-parents, et mieux, c'était que l'échauffement. Je vous raconte tout ça dans une vingtaine de minutes.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs qui, eux, a priori, n'ont tué personne. David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines des essais cliniques.
Oui, les essais cliniques, c'est ce qui permet de déterminer si un médicament marche, par exemple. On sépare les gens en plusieurs groupes, on donne des placebos à certains et des vrais médicaments à d'autres, et on voit s'il y a une différence entre les deux. Et bien, en fait, c'est une idée qui paraît très simple, mais qui est relativement récente dans l'histoire de l'humanité.
Et c'est rémunéré dans certains pays.
C'est rémunéré dans certains pays.
Et puis, avec Olivier Poul, ça reparle les cuisines, évidemment.
Bien sûr. Mais il faudra tuer un cochon, quand même.
Et oui, car le fromage de tête, ce n'est pas du fromage. Non. C'est important de le rappeler à nos auditeurs. Moi-même,
mais c'est de la tête.
C'est de la tête.
Mais non. C'est de la tête de cochon.
Ah oui. Mais c'est pas fait avec la cervelle, quand même.
Bah, il y a, disons, un certain nombre de parties de la tête du cochon.
Pas du fromage de visage, en fait.
Oui, c'est ça. C'est le groin, la langue, les joues.
Fromage de visage.
Le problème, voyez-vous, c'est que quand vous le dites, après, ça donne moins envie.
Ouais, et puis quand je vais vous donner la recette, je suis pas sûr que vous aurez vraiment envie d'en faire, vous allez voir. Mais oui, mais c'est pas gras du tout. Non, Stéphane, c'est pas gras. Non.
C'est gélatineux.
C'est gélatineux, mais ce sont des viandes très maigres.
Ça, Stéphane, j'ai découvert ça récemment.
C'est pas gras du tout. Non, c'est pas gras.
Pour ceux qui n'auront pas été rassasiés en matière de tuerie, nous finirons en beauté avec une nouvelle édition de la lutte finale. Ce quiz dans lequel, tels des gladiateurs de l'esprit, nous nous entretuons, Olivier, David et moi. Le temps de nous huiler, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
C'est un fait divers qui s'est passé en été, mais qui fait froid dans le dos. Un jeune homme de 20 ans vit avec sa famille dans une ferme de Normandie. Mais il a tué sa mère. Et pas qu'elle. Vous allez voir, Stéphane Bern nous raconte la folle histoire de Pierre Rivière.
Le 3 juin 1835, dans le petit village d'Aulnay, dans le Calvados, en Normandie, la nouvelle d'un crime agite les habitants. On rapporte qu'un drame terrible s'est produit dans la ferme de la famille Rivière, située au hameau de la Fauquerie. Pierre, cultivateur et fils aîné de la famille, âgé de tout juste 20 ans, aurait assassiné sa propre mère, Marianne, à coups de serpe. Le maire d'Aulnay décide immédiatement de se rendre sur place en compagnie d'un juge. En entrant dans la pièce principale de la maison, les deux hommes font face à l'horreur. Marianne Rivière, enceinte de 6 mois et demi, est étendue sur le dos près de la cheminée. Son corps baigne dans son sang. La pauvre femme, dont la mort ne fait évidemment aucun doute, a le visage massacré. Et sa tête, oh mon Dieu, sa tête, elle se détache de son buste. La mère a presque été décapitée. Mais l'effroi ne s'arrête pas là. Dans la même pièce gît sur le dos Victoire Rivière, sa fille âgée de 18 ans. Elle a le corps mutilé, son métier à dentelle est lui renversé. Mais aussi le petit dernier de la famille Rivière, Jules, 7 ans, qui a lui aussi été massacré et laissé pour mort, le visage collé contre le sol du salon. Et l'auteur de ces crimes fait peu de doute. Une voisine rapporte qu'elle a vu Pierre Rivière s'enfuir le long du chemin, une serpe encore dégoulinante de sang à la main. Elle dit aussi qu'en s'enfuyant, le jeune homme criait « Je viens de délivrer mon père de tous ses malheurs. Je sais qu'on me fera mourir, mais ça ne fera rien. » Pierre Rivière est donc le coupable. Il s'en est accusé lui-même. 2 jours après la découverte de ce macabre massacre familial, le procureur du roi de Vire se déplace à Aulnay. Les témoignages qu'il récolte sur Pierre Rivière sont littéralement effarants. D'abord, tous les habitants le décrivent comme l'idiot du village, mais un idiot sacrément dangereux. Certains rapportent qu'il avait pour habitude de broyer des oiseaux entre des pierres. D'autres disent qu'il clouait des grenouilles encore vivantes à des arbres. Ça, ce sont les sévices qu'il pratiquait sur les animaux. Mais on dit aussi qu'il s'en prenait aux enfants, en les poursuivant avec une faux, menaçant de les tuer. Le procureur s'entend aussi dire que Pierre Rivière parlait régulièrement tout seul et que tel un animal, il poussait des cris aigus qui ressemblaient un peu à des cris de chouette. Interrogé, Pierre-Martin Rivière, son père, dément ses témoignages. Pour lui, son fils était loin d'être un idiot, encore moins un fou. Il en veut pour preuve ses lectures continuelles, toujours un livre à la main, souvent les plus érudits. Dès lors, se pose pour le procureur la question de la santé mentale de ce fils matricide et doublement fratricide. Il émet un mandat d'arrêt contre lui avec son signalement complet et ordonne des recherches dans les villages des environs d'Aulnay. Les gendarmes du Calvados se mettent à ses trousses dans le canton. Plusieurs fois, le jeune homme est aperçu errant aux orées du bocage normand. Mais à chaque fois que les gendarmes arrivent sur place, Pierre Rivière reste introuvable. Jusqu'à ce matin du 2 juillet, dans le village de Langannerie. Rivière n'a pas de papier sur lui, mais deux couteaux et un arc. Pourtant, il décline son identité, se laisse arrêter sans résistance, déclarant au brigadier de gendarmerie que, pour ses trois crimes sanglants, il était simplement guidé par un ordre divin. Incarcéré à la prison de Falaise, Pierre Rivière est présenté au juge d'instruction à qui il justifie là encore ses assassinats. « J'ai obéi à Dieu. Je n'ai pas cru qu'il y eût du mal à justifier sa providence. » Est-il dément ? Il ajoute à cela que ses victimes, sa mère, sa sœur, son frère, étaient unis contre son père afin de le persécuter. Le pauvre garçon paraît incohérent. Rivière est de nouveau entendu par le juge 2 jours plus tard. Il offre alors un mobile bien plus construit. Il argue qu'il a voulu tuer sa méchante mère car elle avait la fâcheuse tendance à causer des tracas à son père. Et son frère et sa sœur, ils disent avoir tué parce qu'ils prenaient trop le parti de leur mère. Au cours de ses nouveaux aveux, Pierre Rivière manie un français parfait et argumente bien. Le mobile présenté par l'accusé est présenté comme rationnel. Cela conduit-il pour autant à déduire que Rivière n'est pas un illuminé ? Oui, tout semble prouvé. Pierre Rivière décrit sa défunte mère comme une femme hystérique, odieuse vis-à-vis de son père, et dépensière qui plus est, alors que son père n'était qu'amour pour elle. Dans un second temps, il reconnaît face au juge qu'il a réfléchi son geste voilà un mois, qu'il a fait affûter sa serbe chez le maréchal Ferrand, puis attendu le moment propice pour passer à l'acte. À l'en croire, on est donc face à un triple assassinat longuement prémédité. À la suite de son acte, Pierre Rivière dit avoir pensé à se rendre aux autorités, puis y renonçant carrément à se pendre. Mais il a préféré se faire arrêter. Pour tester la bonne santé mentale de Rivière, le juge lui propose de coucher à l'écrit ce qu'il vient de lui rapporter. Reconduit à la prison de Vire, le jeune détenu se met à écrire. Le texte qu'il finit par remettre au juge le 20 juillet est sidérant. Écrit dans un français excellent, hormis quelques fautes d'orthographe, il est étayé, précis, argumenté, bien construit. De la part d'un fils de paysan qui a si peu fréquenté les bancs de l'école, c'est confondant. Le texte qui sera plus tard édité ne fait pas le moindre pli. Pierre Rivière est plus que futé, il est carrément intelligent. Il justifie même son acte en se comparant au héros des livres qu'il lit et reconnaît que si lui n'a pas tué pour sauver la patrie, il l'a fait pour sauver son père. Le juge fait alors examiner Pierre Rivière par un médecin. Le docteur Bouchard ne lui diagnostique, je cite, « aucune maladie qui n'ait pu déranger les fonctions du cerveau ». Alors voilà, Pierre Rivière n'est pas aliéné. Et si le code pénal de l'époque prévoit qu'on ne juge pas les fous, lui pourra donc l'être. En novembre 1835, la cour d'assises le reconnaît coupable. Pierre Rivière est condamné à mort. En France, pourtant, le débat apparaît. Pour la première fois, des journaux plaident contre sa mise à mort. Son avocat fait réunir un collège de 7 plus éminents médecins du royaume. Tous se rejoignent pour reconnaître le réel état d'aliénation de Rivière. Au terme de ce réexamen, le roi Louis-Philippe gracie Pierre Rivière. Sa peine est commuée en réclusion à perpétuité. Mais au terme de 5 années d'emprisonnement à Caen, Pierre Rivière a tout juste 25 ans, se pend dans sa cellule. Cette triste histoire trouvera un écho dans les années 1970 dans le cadre d'un séminaire de Michel Foucault au Collège de France sur les expertises médicales relatives aux homicides. Un cas d'école, comme on dit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Pierre Rivière, nous sommes avec l'historien Marc Renneville. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour Marc Renneville, vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des savoirs du crime et du criminel et l'auteur du Dictionnaire des assassins et des meurtriers et du livre Le champ des crimes paru aux éditions Gaylis. Est-ce qu'on peut classer Pierre Rivière dans une catégorie de tueurs ? Et dans ce cas-là, quel type de tueur était-il ?
Eh bien, on peut dire que du point de vue juridique, c'est un parricide en fait. Et à l'époque où il commet son crime, le parricide est condamnable. C'est un crime très très grave. Il est prévu par l'article 299, en fait, pour être précis, du code pénal de 1810, et il dit que le condamné est conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pied, la tête couverte d'un voile noir, et en plus, avant 1832, on pratiquait l'ablation du poing droit, on coupait le poing droit du parricide avant 1832.
Oh la vache, oui.
Incroyable, ça je savais pas du tout, vous saviez ça,
Mathieu ? Pas du tout, je suis sous le choc.
Vous écrivez dans votre dictionnaire que le parricide est alors au point culminant de l'échelle des crimes dans la continuité d'une tradition qui remonte au droit romain. D'où vient cette caractéristique et cette hiérarchie des crimes? C'est qu'on considère évidemment que tuer le père ou tuer la mère est quelque chose qui va contre Dieu, enfin qui est peut-être contre la vie même qui nous l'a donnée.
Oui, c'est ça en fait, c'est que c'est le crime le plus odieux parce que c'est celui qui paraît le plus contre nature. Parce qu'on doit à nos parents à l'amour filial, le respect de l'autorité également, qui est très important, surtout dans des sociétés patriarcales. Mm-hmm. Et donc, il n'est pas très étonnant que le parricide soit le plus important, surtout que d'autres formes de crimes sont considérées comme étant, à l'époque, moins graves, parce que les personnes auxquelles qu'elles concernent ont moins d'importance. Je pense, par exemple, aux enfants.
Alors, tout le débat après son acte criminel s'est focalisé, on l'a dit, sur la santé mentale de Pierre Rivière. Est-ce qu'il faut forcément être fou pour tuer sa mère ?
Ah bah ça, c'est ce qu'on peut penser en fait quand on n'a pas l'intention de tuer ses parents, et en particulier sa mère. Mais la réalité, c'est que les motifs sont... D'abord, il faut peut-être rappeler que les matricides, donc du point de vue criminologique, ceux qui tuent leur mère, sont quand même rares parmi les parricides, ceux qui tuent leurs ascendants. Et ces personnes-là peuvent être effectivement diagnostiquées comme présentant certains types de maladies mentales, peut-être de la schizophrénie, peut-être des psychotiques, etc. Mais qu'en tout cas, eux trouvent des motifs qui leur paraissent plausibles, un petit peu comme Pierre Rivière qui va s'expliquer en disant que finalement sa mère était tellement insupportable qu'il ne pouvait pas faire autrement que de l'éliminer pour rétablir d'une certaine manière l'ordre familial. Et dans l'idée du matricide, de celui qui tue sa mère, il y a l'idée de rétablir un ordre qui a été transgressé finalement par une mère qui n'est pas à sa place.
Ça sera toujours son explication principale. Il trouve pas que c'est un peu léger quand même pour tuer 3 membres de sa famille, il faut le rappeler.
Ah bah fort heureusement pour toutes les personnes qui n'ont pas l'intention de commettre d'assassinat, les mobiles de passage à l'acte sont toujours nous paraissent toujours un peu insensés ou en tout cas disproportionnés par rapport à ce qui serait acceptable. Mais et d'ailleurs Pierre Rivière le sait bien, c'est pour ça qu'il va rédiger un mémoire dans lequel il va finalement très clairement s'expliquer sur les motifs de son geste, sur ce à quoi il a pensé quand il l'a préparé, quand il l'a commis, et ensuite quand il a été arrêté.
Et comment se fait-il que deux psychiatres experts se soient contredits sur la santé mentale de Pierre Rivière ? Était-il vraiment fou et qu'est-ce qu'on entendait par fou à l'époque ?
Alors, était-il vraiment fou ? Là, Stéphane, c'est une question un peu difficile parce que les diagnostics rétrospectifs sont quand même très compliqués. En plus, moi, je ne suis finalement qu'historien, je ne suis pas du tout psychiatre, donc pas vraiment habilité à répondre. Alors, ce qu'on entend par folie à l'époque, il y a deux formes principales de folie. Il y a la folie, je dirais, par la déraison, c'est-à-dire les personnes qui ont des idées délirantes. Et puis, il y a une deuxième forme de folie qui apparaît justement dans ces années, qui pose beaucoup de problèmes d'ailleurs à la justice pénale, qui est la folie par un défaut de la volonté, une sorte de volonté corrompue, mal orientée, qui ferait qu'on a beau savoir qu'il faut pas commettre par exemple une infraction ou un assassinat, eh bien on va avoir des impulsions qui vont nous pousser à les commettre. Ce qui pose des grosses questions sur la responsabilité de ces personnes devant les tribunaux.
Ce Pierre Rivière, il est devenu au fil du temps un cas d'école, Stéphane l'a dit, mais pourtant il était... pas du tout prototypique de quelqu'un de cette époque-là. Il était très paradoxal, puisqu'il était à la fois... certains disaient qu'il était l'idiot du village, ensuite on découvre qu'il a une plume, qu'il a des références, qu'il sait écrire. On a aussi les anecdotes concernant le fait qu'il torturait des petits animaux ou qu'il menaçait même des enfants. C'est vraiment une personnalité très, très complexe.
Eh bien oui, vous avez raison Mathieu. Il y a cette complexité parce que les paysans le regardent comme étant un peu, comme on l'a dit, l'idiot du village, surtout parce qu'il n'est pas comme les autres.
C'est-à-dire il est différent.
Il fréquente pas vraiment les filles, il s'en éloigne même, elles leur font peur. Il martyrise un peu les animaux, mais ça c'est pas si rare. Mais en tout cas, il n'est pas bien intégré dans le village et donc il est un peu l'idiot à Rivière, le père. Et puis d'un autre point de vue, il paraît relativement rationnel parce qu'il lit, il sait lire et écrire. Et d'ailleurs, si vous m'accordez juste 30 secondes, je veux bien pour les auditeurs peut-être lire juste le début du mémoire, d'accord ? Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, et voulant faire connaître quels sont les motifs qui m'ont porté à cette action, j'ai écrit toute la vie que mon père et ma mère ont menée ensemble pendant leur mariage. J'ai été le témoin de la plus grande partie des faits et qui sont écrits sur la fin de cette histoire. Et pour ce qui est du commencement, je l'ai entendu raconter à mon père lorsqu'il en parlait avec ses amis, ainsi qu'avec sa mère, avec moi et avec ceux qui en avaient connaissance. Après cela, je dirai comment je suis résolu à commettre ce crime, ce que je pensais alors et quelle était mon intention. Je dirai aussi quelle était la vie que j'ai menée parmi le monde. Je dirai ce qui se passa dans mon esprit après avoir fait cette action, la vie que j'ai menée et les endroits par où je suis allé depuis ce crime jusqu'à mon arrestation et quelles furent les résolutions que je pris. Et je termine. Tout cet ouvrage sera stylé très grossièrement car je ne sais que lire et écrire. Mais pourvu qu'on entende ce que je veux dire, c'est ce que je demande et j'ai tout rédigé du mieux que je puis. Donc c'est quand même assez, effectivement, époustouflant de la part d'un paysan que d'écrire de cette manière.
Et il y a une question qu'on n'a pas du tout abordée. Est-ce qu'on a interrogé son père ? Parce qu'à aucun moment on nous dit si le père se sentait lui-même maltraité par son épouse. Et s'il y avait des raisons, j'allais dire objectives, enfin je dis pas il n'y a jamais de raison objective de tuer sa mère, mais s'il y avait des raisons objectives de défendre son père contre sa mère.
Alors là, c'est vous qui le dites. Non mais effectivement, le mémoire est plein de raisons, de récriminations du fils contre sa mère par rapport à un père qu'il juge finalement trop faible pour réagir. Et il estime que si le père avait été à sa place, finalement, il aurait suffi de quelques taloches données à la mère pour que tout rentre dans l'ordre. Mais comme le père ne peut pas le faire, finalement, Pierre Rivière s'empare du problème. Et il y a une vraie confusion aussi des générations, il faut peut-être le rappeler. Pierre porte le même prénom que son père, ils s'appellent tous les deux Pierre, se prénomme Pierre. Et Victoire, la fille, a le même prénom que la mère également. Et il y a une sorte de confusion des générations qui s'est inscrite dans cette famille qui aboutit au drame, en fait.
Mais écoutez, c'est passionnant. Merci beaucoup, Marc Renneville, d'être revenu avec nous sur ce fait divers hors norme. Je rappelle votre dernier ouvrage sur un autre tueur en série du 19e siècle, Joseph Vacher, Le Chant des Crimes. Et oui, parce que à l'époque, on faisait des chansons, composait des chansons en hommage au tueur. On ne le fait plus aujourd'hui.
Non, c'est vrai, c'est passé de mode.
Non, c'est passé de style.
Mais c'est publié aux éditions Gaïdis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les personnages qui ont tué leur mère. Et après Henri von Blarenberg et Pierre Rivière, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de quelqu'un qui a tué sa mère, mais qui a même fait pire.
Il y a différents types de pervers. Le pervers sympathique, qui se contente de jeux de rôle SM finalement assez soft, où, déguisé en poule, il roucoule en susurrant un partenaire menotté mais consentant.
Ah, c'est bon.
Et puis, il y a hélas un deuxième profil de pervers, le pervers son. Le pervers qui n'est pas là pour rigoler, le pervers qui ne fait pas la poule. Je vous présente l'ogre de Santa Cruz, 2m10, 130 kg et une grosse moustache. Signe particulier, premier serial killer de l'histoire des serial killers américains et à ce jour encore un des plus gratinés. Doté d'un QI de 140, Edmund Kemper va vous couper l'envie d'avoir un enfant à haut potentiel. Après ce récit, chers parents qui nous écoutez, vous n'aurez qu'une envie, que votre enfant soit à tout petit potentiel, mais qu'il soit gentil et qu'il ne projette pas de zigouiller la moitié de la famille. Depuis sa plus tendre enfance, qui d'ailleurs n'a rien eu de tendre, Edmund en veut à sa maman. Si Dame Nature lui avait donné la sensibilité artistique d'Alain Souchon, il lui aurait simplement passé un coup de fil.
Allô maman.
Mais voilà, Edmund Kemper n'avait pas du tout la sensibilité artistique d'Alain Souchon et il n'a pas dit son mal-être dans une chanson, il l'a exprimé différemment, avec un marteau. Nous sommes à la fin des années 60 et un jour, Edmund entend cette chanson.
J'avais un marteau.
Lui qui déteste sa mère depuis toujours, il se dit « Tiens, moi aussi, c'est fou tout ce que je pourrais faire si j'avais un marteau ». Mais revenons quelques années en arrière. Edmund Kemper naît en 1948 à Burbank, en Californie. Son père est électricien, sa mère alcoolique, de profession semble-t-il. Papa lui reproche d'être alcoolique, ils finissent par divorcer. Il faut dire que maman Kemper a la fâcheuse habitude de frapper ses conjoints, d'où trois divorces. Forcément, ce qu'on n'appelle pas encore la parentalité, mais simplement élever des chiens, n'est pas le point fort de cette femme qui, en guise d'éducation, enferme régulièrement son fils à la cave, près de la chaudière. Un jour, elle tente même de le pousser sous un train en marche, ce qui, c'est écrit noir sur blanc dans les livres de Marcel Ruffaut, est très mauvais pour un enfant. De manière finalement peu étonnante, le petit Edmund commence à détester sa mère et à développer en parallèle ou en réponse une tendance sociopathe que nous qualifierons de lourde, puisqu'il va passer une partie de sa jeunesse à traquer méthodiquement tous les petits minous du quartier. Pas comme vous, David, hein, au sens figuré, mais au sens propre, il traque, torture, puis décapite tous les chats errants, en commençant par son propre chat qu'il enterre vivant. Je sens, Stéphane, que vous avez envie de l'excuser, de relativiser.
On faisait ça quand on avait 15 ans.
Non, pas tout le monde, Stéphane, pas tout le monde. Sentant que son fiston file à un mauvais coton, Madame Kemper décide de l'envoyer vivre chez ses grands-parents paternels. Oh, la bonne idée. C'est vrai, un changement de décor, quand on débloque un peu, ça fait souvent du bien. Pas là. Très rapidement, Henwood, qui a alors 15 ans, bute mamie d'un coup de fusil, puis elle lui rappelait trop maman, expliquera-t-il plus tard. Vu la réaction mitigée de papy, qui a le toupet de lui reprocher d'avoir buté sa grand-mère, Edmund, vous le comprendrez, n'a d'autre choix que de le refroidir à son tour. So long, papy. Sans surprise, Edmund est interné dans un asile psychiatrique pendant 4 ans. Il est ensuite placé en maison de correction, puis en liberté surveillée. Il trouve alors miraculeusement un emploi dans la division des autoroutes californiennes, prend un appartement, se refait une santé, allez, on oublie tout, fin de l'histoire. Non, car les nuits, Ed Boon fait de drôles de rêves. Il rêve de tuer sa mère. Minutieux, il commence dans un premier temps par s'entraîner sur des étudiantes qu'il tue, démembre et viole après les avoir prises en autostop. Fun fact, il peut y avoir du fun fact dans cette histoire, il finit souvent par les manger, puisque oui, Ed Boon est un peu cannibale sur les bords, nous dit le site détective. Qu'est-ce qu'être cannibale sur les bords? Aujourd'hui, on dirait probablement flexitarien. En l'espace d'une année, 1972, Edmund se fait donc la main sur 6 étudiants. Puis, une fois qu'il s'estime suffisamment opérationnel, il décide de s'attaquer à un moment. Ce sera la veille du dimanche de Pâques 1973. Belle chasse aux œufs en perspective, je vous l'annonce. Alors, on n'a pas tous les détails, mais on imagine volontiers que maman alcoolo était en train de fredonner du Nana Mouskouri en enlevant ses barésilles. C'est comme ça que j'imagine la scène. Son fils, le géant pervers, l'observe à travers les persiennes, ce qui tient lieu de persiennes aux Auriquiens en tout cas. Ce qu'on sait, c'est qu'une fois endormi, Edmund se faufile dans la chambre de sa maman, la frappe au niveau de la tempe avec un marteau, puis l'égorge avec un couteau de poche.
C'est super, j'adore les opinels.
Oui David, super, c'est le mot. Que faire ensuite? Eh bien, Edmund dépose la tête décapitée de sa mère sur la cheminée et il a une idée. Tiens, et si je prolongeais le plaisir en utilisant la tête de maman morte comme cible pour jouer aux fléchettes? Alors, au-delà de l'horreur, il faut quand même, je crois, saluer la créativité d'Edmund. Le lendemain, c'est Pâques. Pour fêter ça, il bute une collègue de sa mère venue lui rendre visite. Tant qu'à faire, n'ayant plus personne avec qui trinquer, il poursuit la journée dans un bar qu'il connaît bien, où il a ses habitudes, notamment celle de papoter avec des policiers de Santa Cruz. Des policiers qui, je cite, l'avaient toujours trouvé très rigolo. Mais leur sentiment risque de changer, car la nuit venue, et on sait qu'elle porte souvent conseil, Edmund décide de tout avouer au flic. Il se rend au commissariat et raconte tout. Alors au départ, le flic croit à une blague. Mais voilà, devant la précision des détails donnés, on finit par le prendre au sérieux. L'enquête est ouverte, rapidement bouclée, et Edmund est condamné à la perpétuité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque une fois en prison, notre sociopathe va se mettre au service de la police. Alors, est-ce pour s'amender ou pour tromper l'ennui? Toujours est-il qu'il va aider les autorités à établir le profil psychologique d'un tueur en série, concept donc encore très nouveau dans les années 70. Il va donc s'auto-analyser, détailler ses propres mécanismes psychiques aux policiers. Il explique par exemple précisément ce qu'il a pu éprouver à certains moments des meurtres. Exemple, je le cite, vous vous demandez peut-être ce qu'on ressent à faire l'amour à un cadavre, ou quelle impression on éprouve assis sur son divan à regarder deux têtes coupées posées à vos côtés. Edmund poursuit, je cite, pour vous faire partager mon état d'esprit de l'époque, que croyez-vous que je pense lorsque je croise une jolie fille dans la rue? Eh bien, une partie de moi se dit, quelle chouette nana, j'aimerais lui parler, sortir avec elle, et l'autre moitié de moi pense, je me demande à quoi ressemblerait sa tête enfoncée sur un pieu. Oui, c'était ça, Edmund Kemper, ou plutôt, histoire de vous faire frissonner un peu plus, c'est toujours ça, puisque Edmund est vivant, il a 73 ans, et en attendant qu'une de ses demandes de remise en liberté aboutisse un jour, il fait des sudokus au pénitencier de Vacaville, où il est depuis quelques années prisonnier modèle, toujours au service des autres, puisqu'il travaille à la bibliothèque, où il est devenu lecteur de livres pour aveugles, c'est vachement sympa. Sacrée reconversion professionnelle pour celui qui aurait inspiré le personnage d'Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux. Si ça se trouve, aujourd'hui, il est moins pervers que celui qui fait...
Ah, c'est bon. Merci Mathieu pour ce récit glaçant. C'était super, vraiment, on a tout adoré.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, il est maintenant enfin l'heure de dire au revoir à nos tueurs de maman.
Oh, pour retrouver Stéphane, deux êtres doux comme des animaux.
Oui. Olivier Pouls pour parler cuisine et parler de... Alors là, on a dû décapiter le cochon,
ouais.
C'est pas la même chose, pour faire du fromage de tête.
Exactement, il n'y a pas de fromage, mais il y a de la tête.
Et tout de suite, David Castello-Lopez nous raconte lui les origines des essais cliniques.
Oui, à peu près toutes les découvertes en médecine aujourd'hui, elles sont faites en grande partie grâce à ce qu'on appelle les essais cliniques. C'est simple à comprendre. Imaginez que tout le monde autour de cette table a la syphilis, voilà, et qu'on veut savoir si le hachis parmentier, guérit la syphilis. Eh bien, on met Stéphane et Olivier d'un côté, vous et moi de l'autre, Mathieu. On donne du hachis parmentier à Olivier et Stéphane, et à nous un placebo de hachis parmentier, et on regarde si Olivier et Stéphane guérissent mieux de la syphilis que nous. Ce genre d'essai, c'est l'un des chemins les plus balisés et les plus sûrs dont l'humanité dispose pour atteindre la vérité. Et pas seulement en médecine d'ailleurs, ça marche aussi pour étudier les politiques publiques. On essaie de trouver deux populations qui ont exactement les mêmes caractéristiques sociales, on applique la politique publique à l'une et pas à l'autre, et on observe. Ça paraît incroyablement évident comme technique, et pourtant, pendant longtemps, personne n'y avait pensé. Et donc, je vais vous raconter aujourd'hui les origines de ce qui est considéré par beaucoup d'observateurs comme le premier essai clinique de l'histoire du monde. Et pour ça, je vous invite à un voyage dans le temps. Le temps d'avant l'industrie où la mer était couverte de bateaux anglais, français, espagnols qui aidaient leur nation à coloniser le monde et à garder ses colonies une fois qu'ils les avaient colonisées. À cette époque, beaucoup de gens étaient marins. Et marin, c'était vraiment un métier nul de chez nul. Et en particulier, c'était un métier terriblement dangereux. Vous vous faisiez tuer par des pirates, vous aviez la fièvre, mais surtout, vous aviez le mal de mer pour certains. Bon, ça, par rapport à se faire tuer par un pirate, c'est quand même un petit peu plus acceptable.
Ça tue pas.
Mais surtout, vous aviez l'une des maladies les plus affreuses de ces époques-là, le scorbut. C'est dur de décrire à quel point le scorbut, c'est nul. Vous commencez par sentir vos gencives gonflées, puis elles saignent, puis vos dents se déchaussent. Vous êtes exténué au point que vous ne pouvez plus lever le bras. Votre corps se couvre de bleu et de pustules. Des cicatrices vieilles de 20 ans se réouvrent comme si vous veniez d'être blessé. Vous avez des hémorragies dans tous les sens et vous finissez par mourir d'une de ces hémorragies qui a lieu généralement près du cœur ou du cerveau. Entre le milieu du 15e siècle et le milieu du 19e siècle, il y a 2 millions de personnes qui sont mortes du scorbut sur les bateaux. On n'en réchappe pas si jamais on
l'attrape.
C'est la carence en vitamine C. En fait.
Mais je peux y finir ma chronique, mais c'est pas possible. C'est quand même dingue. Ça fait 2 ans qu'on m'interrompt à chaque fois que je fais des chroniques pour dire à la fin à quoi ça sert.
J'en connais un qui va peut-être buter ses collègues.
Putain, entre le milieu du 15e siècle et le milieu du 19e siècle, il y a 2 millions de personnes qui sont mortes du scorbut sur des bateaux. Beaucoup. Ça fait plus de morts que les combats, les tempêtes et les naufrages combinés. Il y a des experts des expéditions, qui ont perdu 90% de leurs hommes à cause du scorbut. Et pendant des siècles, on a cherché des remèdes. On donnait aux marins un mélange d'alcool et d'acide sulfurique, du cidre, du vinaigre, mais rien de tout ça marchait. Et puis un jour, au milieu du 18e siècle, est intervenu un monsieur écossais qui s'appelait James Lind. James, il était médecin sur un bateau anglais qui s'appelait le Salisbury, et il s'est mis en tête de mieux comprendre le scorbut. Au bout de quelques mois sur le bateau, il a sélectionné 12 marins qui avaient le scorbut. Il les a séparés en 6 groupes de 2 et il a donné à chacun de ces groupes un régime alimentaire différent dont certaines personnes disaient qu'il avait un effet sur le scorbut. À un groupe, par exemple, il a donné du cidre, à un autre de l'eau de mer, à un autre un mélange de graines de moutarde, de vinaigre et d'ail, et à un autre encore 2 oranges et un citron. Et il a observé 3 choses. 4 des 6 régimes alimentaires n'avaient aucun effet sur le scorbut. Il y en avait un qui marchait un peu, c'était le cidre. Et en revanche, ceux qui avaient pris les oranges et le citron, ils avaient guéri complètement au point qu'ils ont pu aider James à soigner les autres. Et voilà l'histoire de ce qui est considéré comme le premier essai clinique du monde. Bon, le truc triste, c'est qu'il a fallu attendre 50 ans pour que la marine anglaise adopte la méthode des agrumes. Mais quand les Anglais l'ont adoptée en 1799, ils ont éliminé le scorbut de leur rang. En 1780, il y avait 1457 marins qui ont été traités pour scorbut à l'hôpital de la marine anglaise. Entre 1806 et 1810, il n'y en a eu que 2. Et ça a donné un avantage décisif à la marine anglaise dans la guerre contre Napoléon, puisque les navires anglais pouvaient rester beaucoup plus longtemps en mer avec leurs marins qui ne mouraient pas. Mais, vous savez quoi ? Ce remède, il a été oublié plusieurs fois. À la fin du 19e siècle, les meilleurs médecins du monde, ils pensaient que le scorbut, ça venait de bactéries qui étaient contenues dans la viande en boîte. Ils avaient oublié que les oranges pouvaient régler le problème du scorbut. Résultat, il y a eu des expéditions polaires à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, où il y a encore des marins qui sont morts du scorbut, alors que fondamentalement, on avait un peu compris qu'il y avait quelque chose qui marchait. Pire, au début du 20e siècle, il y a eu une épidémie de scorbut chez les bébés de bonne famille, parce qu'on pasteurisait leur lait. Or, le lait pasteurisé perd sa vitamine C. Et donc, la véritable fin du scorbut, c'est quand on a découvert que c'était la vitamine C ce que c'était que la vitamine C, et que c'était la vitamine C, qu'elle soit présente sous, dans quoi que ce soit, qui faisait qu'on pouvait régler ce problème. C'est presque une autre histoire, celle de la vitamine C, mais je vous la raconterai un jour.
C'est passionnant.
Oh, oui, ça c'est vraiment...
Merci David, on retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
C'est un fromage qui ne s'achète pas en fromagerie. Mmh. Le fromage de tête, Olivier Pouls. Mais d'où vient-il ? Qui est-il ?
Bah oui, comme dirait David, en cuisine, il y a des trucs chelous comme ça. Dans le fromage de tête, bah, il n'y a pas de fromage. Comme dans la cervelle de canut, plat lyonnais, il n'y a pas de cervelle. Il y a des choses un peu bizarres comme ça. Alors on se demande, mais bon sang, pourquoi appelle-t-on ce plat fromage de tête ? Alors fromage de tête, c'est une des dénominations de ce plat, puisque dans d'autres régions, on l'appelle la tête pressée, par exemple. Et certains l'appellent aussi le pâté de tête, ce qui est assez impropre, parce qu'en réalité, pour qu'un pâté soit appelé pâté, il faut que la viande soit hachée, ce qui n'est pas le cas dans le fromage de tête. Alors pourquoi appelle-t-on ça le fromage de tête ? Alors tout d'abord, c'est une très vieille recette qu'on n'arrive pas vraiment à dater. On peut pas non plus définir exactement l'endroit géographique où elle est née. Quelque part en Europe, c'était une manière en fait de récupérer la tête du cochon, puisque comme vous le savez, dans le cochon...
Tout est bon.
Et donc on préparait cette tête de cochon que l'on ensuite mettait en forme. Et cette mise en forme... formé fromage. Et c'est d'ailleurs formé, le terme formé qui a donné le mot fromage. Parce que vous savez que la plupart des fromages sont des fromages qui sont formés, qui sont moulés. Et donc, comme on moulait, qu'on formait...
Du fromage de tête.
C'est du fromage de tête qui donne fromage de tête en réalité. Voilà l'explication de la dénomination de ce plat. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bah, on a eu une émission assez joyeuse hein, aujourd'hui avec quelques guélurons qui eux avaient massacré leur mère. Je crois qu'il y en avait même un qui mangeait de la chair.
Voilà. Il lui a coupé la tête aussi.
Et bien là, il va s'agir de s'attaquer à une tête de cochon entière, bien évidemment, puisque pour faire ce plat que David affectionne particulièrement, il faut un peu de tous les morceaux. Donc il faut de la joue, il faut du groin, il faut de la langue, toute la chair.
Comment on fait alors ?
Alors, ben, je vais vous dire, c'est pas très difficile à faire en réalité. C'est un petit peu long. Non, je vais vous expliquer. Vous allez voir votre charcutier et vous lui commandez une demi, ça suffit, une demi tête de cochon. Il va vous la vendre sans aucun problème, ça se trouve.
Alors c'est lui qui va la scier en deux ?
Oui, exactement. Vous allez repartir avec une jolie demi tête de cochon. Ah, si vous êtes capable de faire le plat, je serais curieux de venir goûter ça chez vous.
Ensuite, c'est s'évanouir dans la tête de cochon.
Demi tête de cochon. Vous allez la placer dans un grand faitout et vous allez faire un bouillon avec du vin blanc, avec un bouquet garni, avec des carottes, avec des oignons, des grains de poivre, pour rajouter un peu de baie de genièvre, etc. Et vous allez cuire tranquillement cette tête de cochon pendant 2 à 3 heures. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la cuisson, vous n'oubliez pas d'écumer d'air, parce que vous avez les impuretés qui remontent, donc vous les enlevez au fur et à mesure. Et puis vous allez voir que les chairs commencent petit à petit à se détacher. Et après 2-3 heures de cuisson, vous sortez votre tête que vous allez bien égoutter, vous allez récupérer toute la chair qui est cuite, donc le groin, les oreilles, la langue que vous épluchez.
Mais c'est rigolo, on peut le faire avec les enfants aussi.
Oui, c'est très ludique, les enfants adorent ça. Et ensuite, vous coupez tous ces morceaux extrêmement finement dans un joli plat, une terrine ou ce que vous voulez. Vous allez alterner les couches des différentes parties de la tête de notre cher cochon. Vous allez récupérer un petit peu du bouillon de cuisson qui contient du collagène. Et le collagène, c'est une matière qui, lorsqu'elle refroidit, a un pouvoir gélifiant fort. Donc vous allez clarifier, dégraisser ce bouillon. On reverse par-dessus pour joindre toutes les parties et pour les immerger.
C'est le bouillon qui devient la gélatine ?
C'est le bouillon qui devient la gélatine. Au frigo pendant une nuit et vous démoulez ça le lendemain et vous avez un parfait fromage de tête avec les différentes parties de la tête du cochon.
Et vous avez un David Castello-Lopez heureux puisque vous nous avez confié que c'était un plat que vous appréciez.
Ouais, que j'aime toutes les choses de cuisine avec plein de gélatine dedans. Très fort.
Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce que disait Stéphane tout à l'heure, ce n'est pas gras du tout. Ce sont des parties qui sont extrêmement maigres. Et un petit bocal de cornichons avec ça sur les coups de 17h45. Avec peut-être un petit verre de Beaujolais, moi, ça m'irait bien.
Oui, là, on s'éloigne du régime peu à peu quand même. Hein. Si on
peut compenser justement, parce que vu que c'est pas gras, les rillettes, c'est gras, mais le pâté de tête, non.
Il y a tout le pain que vous mangez avec.
Non, j'en prendrai pas.
Bien sûr. Pour ceux qui te connaissent, c'est crédible. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, après le fromage de tête, on va voir ce qu'il y a dans la vôtre.
Non, pas grand
si
chose,
c'est du fromage blanc. Ou... Alors, on va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter?
Ouais.
C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous connaissez le principe, une question pour chacun, en cas de départage, un chiffre à trouver. David, je commence par vous. Enguerrand de Marigny fut chambellan et ministre du roi Philippe IV le Bel. Accusé de pot de vin ainsi que de sorcellerie, il était tellement détesté que quand il a été écartelé, les personnes de l'assistance ont eu le droit de repartir avec un petit bout du malheureux. Une fois la sentence exécutée. C'est vrai ou c'est faux?
Moi, je dis que... je pense que c'est faux.
C'est faux,
qu'est-ce
vous avez raison.
Passé, alors
et surtout que l'épisode est connu puisqu'il a été pendu au fameux gibet de Montfaucon. Et son corps est resté 2 ans pendu à l'air libre.
Voilà, pour montrer... écoutez,
exactement ce qu'on faisait. Voilà, faut pas faire ça. Alors, je vous fais le portrait.
Oui.
Donc, les oiseaux sont venus, ils ont mangé le corps.
Oui.
Après, il reste le squelette.
Oui.
Et 2 ans après, on a descendu le squelette et les restes sont aujourd'hui à la collégiale des Couilles dans l'Eure.
Oh.
Mathieu,
oui.
Si vous allez au musée de USS Hornet en Californie, vous pouvez admirer le MQF qui a servi lors des missions Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13 et 14. Le MQF, ce n'est ni plus ni moins que le réceptacle qui contenait les déjections des glorieux astronautes américains. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ?
MQF, mais alors ça se trouve ça désigne autre chose que ça, mais ça, ce que vous dites, ça doit exister, on en a peut-être même déjà parlé, mais... Non, je ne sais pas, je dis que c'est vrai. Vous êtes toujours fou, mais c'est quand même incroyable, j'ai jamais une chance quand
non,
je réponds au hasard.
En fait, le MQF, c'est le Mobile Quarantine Facility. C'est pas les facilities au sens des toilettes. C'est facilities de la quarantaine. C'est là où le sas de décompression après. Pendant 88 heures pour éviter toute contamination virale.
Et voilà.
Mais bien, nous voilà, effectivement, fort instruits.
On a avancé.
Oui, on a bien avancé.
Alors, Olivier, Fidel Castro est mort en 2016. Et de juillet 2006 à novembre 2016, ses apparitions publiques furent de moins en moins fréquentes. Mais à chaque fois... Il n'apparaissait plus en trim mais en survêtement Adidas. C'est vrai ou c'est
oui,
faux?
C'est vrai. Je dis oui.
Mais c'est d'une facile.
Alors,
déconcertant quoi. En plus, en survêt Puma ou tu vois un truc un peu.
Est-ce que vous savez pourquoi?
Tout simplement parce que je crois qu'il avait tellement la flemme de remettre son treillis militaire qu'il traînait chez lui en vieux joggos.
Mais pourquoi est-ce
pourquoi
que
Adidas
vous savez pourquoi
Adidas
ce jogging Adidas et d'où il venait?
Ah, on avait dû lui offrir.
Bernard Tapie.
Non, c'est parce qu'en fait, bon, vous avez une bonne réponse. Hein. Adidas avait été le sponsor de l'équipe olympique cubaine des JO de 96 à 2012 et il s'est servi dans les stocks.
Il avait des stocks.
Oh là là, non mais là. C'est...
Alors, la question qui départage entre Olivier Pouls et David Castillo Lopez. Parfois dans les films de Rambo ou la série Game of Thrones, certains esprits retors reprochent une certaine violence en général et qu'il y a beaucoup de morts en particulier. Mais combien il y a de morts dans la totalité des tragédies shakespeariennes?
Y compris dans les batailles ou pas?
Ceux dont on parle. Alors ça peut être par empoisonnement, par pendaison, démembrement, enterré vivant, mangé par un ours, enfin, toutes les versions.
Bon, ça doit être énorme, hein, puisque, bon, je tape très haut, moi je mets 12 000.
À 12 000
oui,
quand même.
Oui, on ne sait jamais.
Et vous?
Moi je mets 96.
96, c'est vous qui gagnez, David. Il y en a eu 74.
Ah oui, non, mais c'est un petit jeu, mais parce que laissez penser que c'était une boucherie absolue, puisque qu'est-ce qu'on peut dire?
Il vous a induit en erreur.
Tout était dans la question.
Excusez-moi. Game of Thrones, il y en a des milliers.
Parfois dans les films, etc., certains esprits retors reprochent une certaine violence en général et qu'il y a beaucoup de morts en particulier. C'est donc pour contrevenir à cette idée générale.
Écoutez, je suis grand seigneur, je félicite David pour cette bonne réponse.
Vous avez raison. Bravo David.
Historiquement vôtre, c'est fini pour aujourd'hui. Émission éprouvante puisque nous avons évoqué des hommes assez peu recommandables, Stéphane.
Oui, peu recommandables évidemment dans la mesure où, excusez-moi, ils ont tué leur maman. En plus, tout à l'heure, quand on parlait du fromage de tête, vous avez dit, ah ben ça, on peut le faire avec des enfants. Non, on le fait avec du cochon, pas avec des enfants.
Personne n'a dit ça, c'est
si
pas...
Si, vous avez dit ça.
Délire. Moi,
on peut le faire avec des... Non, il a dit, on peut le faire avec des enfants. Et moi,
le
j'ai
préparer,
pensé...
La recette,
il a
la
voulu
préparer avec des enfants.
Des têtes d'enfants.
Mais qu'est-ce que vous racontez
dans le bouillon.
Moi, j'ai été hyper choqué.
Non, mais vous êtes des monstres. Voilà ce que vous êtes. On revient demain avec une émission plus apaisée, Stéphane.
Oui, oui. Demain, on réunit des personnages qui ont shooté les plus grandes stars. Le photographe Nadar, qui a immortalisé toutes les grandes figures des lettres et des arts. Mm-hmm. Puis l'autre star du genre, Colette Harcourt, et ses mythiques portraits noir et blanc.
Oui, je crois même qu'elle vous a photographié.
Son studio, elle était déjà morte. Hein.
Ah oui.
Je ne suis pas si vieux que ça, hein, Mathieu.
Oh, tant pour moi, Stéphane, j'ai fait la gaffe. Et lui aussi a shooté une grande star, avec qui il a été pris en photo aussi. Shooté, mais au sens propre, puisque Mark Chapman a tué John Lennon, dont il était fan. Alors faites attention à vos fans, Stéphane, on se retrouve demain. Enfin, j'espère.
À demain, Mathieu, à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.